Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce rendez-vous régulier des Jeudis de l'Ordre est un plaisir, et plus particulièrement ce soir, où nous accueillons trois de nos talentueuses élues du CD13. Elles prendront la parole à tour de rôle pour traiter de l'exercice coordonné, les MSP, les CPTS. Elsa Di Stefano de Montillier, spécialiste en médecine générale, va nous éclairer sur les MSP, un sujet qui lui tient à cœur. Elle a créé la toute première à Marseille dans le 12e. Florence Zemmour, spécialiste en médecine générale, va parler avec son implication bien connue et habituelle des CPTS, définition, montage, intérêt. Dominique Thiers-Bautran, gynécologue libéral, passionné, va nous familiariser avec l'outil numérique et la place du spécialiste dans les CPTS. Vous pouvez poser vos questions au fil des exposés successifs. Elles seront traitées au fur et à mesure et aussi à la fin. Le prochain Jeudi de l'Ordre du 9 décembre abordera le béaba de l'exercice libéral avec Marie Masclet de Barbarin, maître de conférence à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université, et Laurent Verloot, membre de l'Ordre des experts comptables. Merci à notre présidente. Merci à tous les membres de ce CD13, à notre équipe de la communication dans son ensemble. Florence, pour une introduction, tu as la parole. Merci et bonne soirée.
Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce Jeudi de l'Ordre pour la première fois sur le thème de l'exercice coordonné. Donc, comme l'a dit le docteur Roméo, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Donc, je vais commencer simplement par une petite introduction sur l'exercice coordonné en général et je laisserai ensuite la parole au docteur Di Stefano. Alors, donc, je me présente, docteur Florence Zemmour. Moi, je suis médecin généraliste à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. J'exerce en MSP. Je suis également à l'origine d'un projet de CPTS sur l'est de l'étang de Berre, la CPTS Initiative Santé. Je suis conseillère ordinale au CD13 et également élue de l'URPS Médecins Libéraux de la région PACA, au sein de laquelle je m'occupe plus particulièrement d'exercice coordonné. Alors, l'exercice coordonné, c'est une façon, selon moi, d'offrir un cadre attractif d'exercice pour les professionnels de santé. Ça va permettre aux professionnels de santé de se coordonner et de favoriser les échanges pour travailler en équipe pluriprofessionnelle. Ce qui est important de comprendre dans l'exercice coordonné, c'est que c'est une façon de mutualiser des moyens et des outils. Et les structures d'exercice coordonné vont recevoir des financements, mais qui vont permettre le financement de la coordination. Ce qui fait souvent peur aux médecins, c'est que parfois on pense que l'exercice coordonné est là pour financer les actes et le soin, alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand on parle d'exercice coordonné et de financement, on parle de financement de la coordination, c'est-à-dire le financement de l'organisation des professionnels de santé entre eux. L'objectif, c'est de répondre à des besoins et des problématiques de santé, comme garantir l'accès aux soins, améliorer la démographie médicale, et surtout, ce qui me tient à cœur, répondre aux besoins des professionnels. Vous verrez, tout au long de la soirée, on va vous détailler qu'il existe plusieurs formes d'exercice coordonné. En fait, on va décliner l'exercice coordonné à différentes échelles. On peut détailler à l'échelle d'une patientèle. On parlera plus particulièrement des maisons de santé, mais il existe également à l'échelle des patientèles des structures d'exercice coordonné plus petites comme les équipes de soins primaires ou des centres de santé qui ont un fonctionnement un petit peu différent de celui des maisons de santé. Et à un échelon supérieur, enfin pas supérieur mais un échelon plus large, à l'échelle d'un territoire, on va parler des communautés professionnelles territoriales de santé. Et vous voyez sur le petit schéma, le petit dessin qui est sur la diapo, qu'une communauté professionnelle territoriale de santé, elle va s'organiser autour de la population d'un territoire et elle va pouvoir regrouper tout un tas de structures comme des établissements, des structures médico-sociales, mais également des maisons de santé, des ESP et des centres de santé. Ces différentes modalités d'exercice coordonné vont avoir des missions et des modes d'organisation différents, mais elles vont avoir également des points communs. Donc pour commencer, pour démarrer un projet d'exercice coordonné, on va partir d'un diagnostic de territoire qui va parfois qui va être fait à partir de données statistiques, évidemment, mais qui va aussi et surtout devoir se baser sur les besoins exprimés des professionnels de santé, sur une thématique ou sur une population ciblée. Évidemment, il va y avoir une fonction de coordination, c'est-à-dire que le principal financement de ce projet d'exercice coordonné, ça va être le fait d'avoir quelqu'un qui coordonne les projets, qui coordonne l'organisation des professionnels. Le projet de santé qui doit être écrit par les professionnels à partir du diagnostic, à partir des problématiques qu'ils ont identifiées et qui va être issu de leur réflexion sur la façon dont ils vont pouvoir apporter des réponses et améliorer leurs conditions de travail. Donc, ils vont écrire tout ça dans un projet de santé qui va leur permettre de lister toutes les propositions et tous les projets qu'ils veulent mener à bien. Et un quatrième point commun à toutes ces structures d'exercice coordonné, c'est le fait de partager des données via des outils informatiques. Donc ça, ce sont les grandes lignes de l'exercice coordonné. Et on va commencer, on va vous détailler ce soir essentiellement les maisons de santé, les CPTS, puis les outils informatiques au sein des CPTS et la place des spécialistes. Et pour commencer à parler des maisons de santé, je vais laisser la parole au docteur Elsa Di Stefano.
Donc bonsoir à tous, je suis médecin généraliste, j'exerce dans le 12e arrondissement de Marseille, c'est le quartier de Saint-Barnabé-Montolivet, et j'ai monté en 2019 une MSP dans ce quartier qui a été labellisée en octobre 2020 par l'ARS. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'est une MSP. Une MSP, c'est une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est une structure de proximité composé de professionnels de santé qui décident de travailler en équipe pour assurer des activités de soins, de prévention et d'éducation à la santé. Pour la constituer, cette MSP, il faut deux médecins généralistes et un paramédical à minima. Donc l'exercice en MSP est un exercice qui est plébiscité de plus en plus par les jeunes d'aujourd'hui pour rompre l'isolement professionnel. En effet, les jeunes qui s'installent ne veulent plus travailler seuls. Ils préfèrent se regrouper pour exercer autour d'un projet de santé commun avec une patientèle partagée, si possible dans des locaux communs. Alors, ça ne veut pas dire que le regroupement de ces médecins n'est pas nécessairement physique. Les médecins généralistes qui sont déjà installés peuvent continuer à exercer seuls dans leur cabinet, mais partager le même logiciel de patientèle que les autres médecins généralistes avec qui ils travaillent au sein de la MSP. Et sur la base donc d'un logiciel avec une patientèle commune et se réunir une fois par mois, par exemple, ou 8 fois par an pour des réunions de concertation pluripro de manière à écrire le projet de santé. Alors maintenant, on va parler un petit peu de comment se montent les étapes de création d'une MSP. Alors, les différentes étapes pour créer une MSP, il faut à la base un leader qui va être à l'origine du projet. Il va falloir fédérer, constituer une équipe médicale et paramédicale derrière ce leader qui va permettre d'accompagner le projet de santé. Il va falloir proposer un pré-projet en quelques pages pour informer l'ARS et la Caisse primaire d'assurance maladie, c'est une lettre d'intention. Pour identifier, pour expliquer en fait pourquoi on fait ce projet. Donc il faut identifier le besoin de la patientèle et définir un travail ensemble. En général, c'est un diagnostic territorial qui est fait et qui permet d'identifier la fragilité d'un territoire, de faire le point sur une offre de soins, sur la prévention et les structures médico-sociales du territoire. On a une population qui vieillit de plus en plus, qui augmente et qui vieillit, et un manque de médecins dans certains territoires qui devient crucial. Le pré-projet qui est écrit est ensuite validé au niveau de l'ARS par une commission de coordination. Pour aider à la rédaction de ce projet qui va s'écrire avec toute l'équipe médicale et paramédicale, on peut compter sur un prestataire qui est dédié à l'accompagnement du projet et à son écriture. Les prestataires, actuellement, sont au nombre de 3. Il y a l'URPS, le CRES et la FEMAS. Donc, après la création de la MSP et sa labellisation au niveau de l'ARS, il est important de créer également une CISA. Alors, qu'est-ce que c'est une CISA ? C'est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires qui s'apparente un petit peu à une SCM et qui va permettre de toucher les ACI, qui sont une rémunération annuelle versée par l'assurance maladie en contrepartie d'engagements que la MSP doit remplir. Alors la création de la CISA n'est pas insurmontable, elle se fait grâce à l'aide du prestataire qui vous aide à monter le projet de santé et qui en général vous trouve un cabinet d'avocats pour vous aider à créer cette société. Il faut savoir que l'accompagnement des projets de MSP par le prestataire choisi intervient depuis l'initiation du projet jusqu'à la signature de la CI et se poursuit pendant la première année de fonctionnement après la labellisation. Alors, quels sont les engagements d'une MSP ? Il y en a trois. C'est d'abord l'accès aux soins. Donc, quand on travaille ensemble en tant que médecin généraliste avec les paramédicaux, avec toute l'équipe paramédicale, il faut s'engager au sein de cette MSP à avoir un accès aux soins qui soit relativement étendu. Il faut essayer d'avoir une amplitude horaire qui soit 8h-20h, mais ça peut être aussi du 8h30-19h30. Ça, c'est ce qu'on appelle les socles obligatoires. Définis auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour toucher les ACI, et ce sont les engagements qu'on fait auprès de la caisse primaire. Donc c'est l'accès aux soins étendu, c'est travailler le samedi matin, c'est donc quand on est une équipe pluridisciplinaire, en général c'est plus simple quand on est de nombreux médecins associés. C'est également se faire remplacer pendant les congés scolaires, en tout cas avoir toujours le cabinet ouvert et prêt à recevoir des patients. Et l'accès aux soins non programmés, c'est en général des patients qu'on est capable de qui font partie de notre patientèle commune et qu'on est capable de recevoir dans les 48 heures, dans les 48 heures pour une urgence. Donc ce qu'on appelle les soins non programmés. Ensuite, c'est le travail en équipe et la coordination. Donc, la coordination, elle est assurée par une personne qui exerce dans la structure. Alors ça, c'est l'idéal. Si on a l'un d'entre nous qui est prêt à assurer cette coordination, c'est quand même important. C'est souvent une personne qui est motivée dans l'équipe, qui a des qualités de fédérateur, de management, et qui va s'occuper du travail de coordination. Alors, en quoi il consiste ce travail ? Il consiste surtout à préparer avec les médecins généralistes et les paramédicaux des protocoles pluripro et les remettre à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est mettre en œuvre des réunions de concertation pour des patients chroniques, la plupart du temps, et s'occuper des relations avec les partenaires médico-sociaux. Ensuite, l'axe numéro 3 qui est très important, c'est le système d'information. Donc, il faut avoir un logiciel partagé entre tous les médecins, voire les autres paramédicaux, souvent les infirmiers, c'est très intéressant, de manière à avoir toute notre patientèle réunie sur un même logiciel et pouvoir connaître les dossiers de nos patients parfaitement. Alors, l'intérêt d'un projet de santé au sein d'une MSP, il y en a de nombreux. Donc, on en a parlé, la fonction de coordination. Il y a aussi l'accueil de jeunes professionnels de santé. Ça fait partie du socle facultatif. Si je reviens en arrière sur les engagements, sur l'axe numéro 2, former les jeunes professionnels de santé et proposer 2 stages par an. Donc, ça, c'est quand on est maître de stage universitaire. Ça fait partie des socles, je dirais, facultatifs. C'est très intéressant d'avoir des jeunes qui travaillent au sein de l'équipe. C'est l'élaboration de protocoles pluripro. Voilà. Donc, je terminerai juste sur l'intérêt en fait d'une MSP. Pourquoi c'est un intérêt important, même si tout ce que je viens d'évoquer, ça peut paraître un peu rébarbatif de tous ces engagements, mais en fait, on travaille beaucoup comme ça en équipe, c'est-à-dire sur des horaires assez élargis. On se fait remplacer pendant nos congés. Travailler sur un logiciel partagé, c'est un véritable avantage. Avoir quelqu'un qui fédère toute l'équipe et qui met en avant des protocoles pluripro pour justement aller sur des pathologies chroniques où on ne sait pas trop comment travailler, on ne sait pas trop quoi faire, on est un peu perdu. Et ça, c'est vraiment fédérateur. C'est-à-dire de se retrouver une fois par mois tous ensemble pour évoquer nos problèmes et parler des problèmes qu'on a pour travailler, c'est quand même important et ça nous fait avancer. Donc, les intérêts, j'en ai quelques-uns que je vais évoquer. Donc, c'est le travail en équipe. On est souvent plus nombreux dans une MSP, donc on améliore nos conditions d'exercice en répartissant mieux nos heures de travail. C'est ce que j'appelle l'effet anti-burnout. Si on est plus nombreux, on peut continuer à prendre des nouveaux patients en tant que médecin traitant, avoir des patients, les patients les plus dépendants à domicile parce qu'on arrive à se relayer les uns les autres. Face au vieillissement de la population et à la présence accrue de polypathologies chroniques, on peut en discuter en se retrouvant autour du projet médical et des protocoles. On peut mieux organiser la réponse aux soins pour les patients au travers de l'élaboration des protocoles, justement, et créer des réponses sur des pathologies chroniques. Par exemple, ça peut être dans le cadre des BPCO, sevrage tabagique, dépistage de spirométrie, impliquer les paramédicaux que sont les kinés sur la réhabilitation respiratoire. Là, je donne juste un exemple. C'est aussi depuis un an le Covid, qui a été, depuis un an et demi, même deux ans, qui a été particulièrement difficile à gérer. Pour nous, ce qui a été intéressant, c'est de mettre à contribution toute notre équipe d'infirmiers au sein de la MSP, pour lancer une campagne de vaccination, et on vaccine énormément depuis un an. C'est l'intérêt aussi majeur, c'est de travailler avec un logiciel identique pour toute la patientèle de la MSP, notamment très intéressant pour les patients non vus en soins non programmés par nos confrères. Voilà. Et ensuite, le dernier intérêt, il est financier parce qu'il y a une aide au démarrage de l'ARS, une aide par la caisse primaire en réponse aux ACI. Et cette aide, elle est quand même indispensable pour tous les programmes de prévention, pour tout notre travail, pour financer le salaire du coordonnateur, pour mieux informer nos patients de notre activité professionnelle, pour l'achat de matériel, pour valoriser notre travail et mieux le rémunérer. Voilà. Et je finirai là-dessus. Je vous remercie.
Merci Elsa. Alors, je vais passer maintenant au deuxième échelon, au deuxième type de structure d'exercice coordonné dont on voulait vous parler ce soir, que sont les communautés professionnelles territoriales de santé. Il s'agit d'un nouveau mode d'organisation et de coordination, cette fois à l'échelle d'un territoire. Alors, qu'est-ce que c'est une CPTS ? Donc, c'est un collectif de santé au service d'une population. C'est un projet qui va démarrer à l'initiative des professionnels de santé de ville, essentiellement, et qui va être organisé sur le territoire qui leur paraît pertinent. C'est-à-dire que la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas l'ARS ou l'assurance maladie qui nous dit « vous devez faire une CPTS sur tel ou tel territoire, telle ville ». Non, toutes les CPTS qui sont en train de se monter dans la région PACA, les territoires ont été définis à l'initiative des professionnels de santé, de façon intuitive, basée sur un diagnostic. Et c'est eux qui ont défini le territoire sur lequel ils voulaient travailler. Par territoire, on entend souvent un regroupement de communes ou dans les grandes villes, un ou plusieurs arrondissements. Donc ce projet va réunir des professionnels de santé de ville du premier et du second recours. Pas uniquement des médecins, évidemment, hein, des médecins, des paramédicaux, des médecins généralistes, des médecins spécialistes. D'autres structures d'exercice coordonné dont je vous ai parlé tout à l'heure, des maisons de santé, des centres de santé, des ESP éventuellement. Et d'autres acteurs qui ont vocation à participer également à la CPTS, que vont être les établissements et services de santé, donc les hôpitaux, les cliniques, etc. Des acteurs du social et du médico-social, des acteurs de la prévention, et également des usagers et des associations de patients. Tout ça, l'objectif de ce projet va être d'organiser et de coordonner les soins de ville et également de devenir l'interlocuteur privilégié en termes de santé. C'est-à-dire que la CPTS, ça va être l'interlocuteur reconnu des collectivités, des institutions en termes de santé. Quand on va avoir besoin de quelque chose qui va concerner la santé ou quand on va avoir besoin de diffuser une information, on va s'adresser à la CPTS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé sur un territoire va avoir un représentant et un interlocuteur. La structure juridique des CPTS est en grande majorité l'association Loi 1901. Actuellement, dans les Bouches-du-Rhône, on dénombre 22 projets de CPTS. Le territoire des Bouches-du-Rhône est quasiment complètement maillé par les CPTS. Et sur la région PACA, on a une cinquantaine de projets en cours. Alors, les projets de CPTS sont basés sur deux grands principes, que sont la pluriprofessionnalité et la territorialité. A priori, c'est un peu contre-intuitif pour nous médecins ces deux notions, parce que c'est vrai qu'on a une profession, on a plutôt l'habitude de travailler de façon un petit peu cloisonnée, de travailler un petit peu dans notre zone de confort, de travailler avec nos correspondants habituels sur notre commune essentiellement. Et la CPTS, voilà, ça va un petit peu bousculer les habitudes de chacun, ça va nous demander de nous adapter un petit peu à certaines notions nouvelles. La pluriprofessionnalité, c'est le fait de travailler en équipe, c'est le fait aussi de partager des données, des expériences, de mieux communiquer avec d'autres professionnels de santé, également de mieux connaître les problématiques de chaque professionnel de santé. Et ça, ben, c'est pas intuitif, et c'est des choses qui vont mettre du temps à être intégrées par tous les professionnels. Petit à petit, voilà, il faut laisser aussi le temps aux professionnels de santé. C'est ce qu'on explique aux institutionnels, qu'il faut laisser le temps aux professionnels de santé de s'acculturer à ces nouvelles notions. La territorialité, c'est pareil. Hein, on a l'habitude de travailler sur un secteur, quand on a l'habitude de travailler dans une commune, et ben c'est peut-être pas évident d'imaginer des projets à l'échelle de plusieurs communes, de se dire qu'on va échanger avec d'autres professionnels ou avec d'autres collectivités que celles avec lesquelles on avait l'habitude de travailler ou d'échanger. Donc tout ça, il faut accepter aussi le fait que voilà, ce sont des notions qui sont nouvelles, ce sont des choses qui sont pas forcément intuitives, mais que petit à petit, il faut laisser le temps professionnel de s'adapter et de comprendre aussi l'intérêt qu'ils vont trouver, probablement, en tout cas je l'espère, à travailler avec ces notions-là. Et la pluriprofessionnalité, ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, c'est pas parce qu'on va travailler en pluriprofessionnalité que chaque profession va être mêlé ou va avoir les mêmes prérogatives. Non, chaque professionnel doit exister dans son individualité, dans sa profession, dans sa spécificité, et doit être intégré dans un travail d'équipe où il va exister de façon individuelle. Ceci étant dit, je passe à la diapo suivante. Alors, pourquoi créer des CPTS ? Donc, les CPTS vont permettre aux professionnels de santé de ville, aux acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire, ben déjà de se rencontrer, mieux communiquer pour mieux se coordonner, de répondre aux besoins de santé insuffisamment ou non traités sur la population du territoire, et de mettre en œuvre des actions mutualisées sur un territoire. Quel intérêt pour les médecins ? C'est une question qu'on entend souvent. Donc on peut y voir plusieurs intérêts, hein, selon moi, une communication professionnelle optimisée, alors pas uniquement entre médecins, mais aussi entre médecins et les autres professionnels de santé, entre médecins et établissements, entre médecins et les autres acteurs médico-sociaux, les acteurs de prévention. Tout ce qui va être mutualisation des outils, coordination, va permettre d'avoir un meilleur confort de travail, notamment quand on considère aussi le travail sur les parcours, la fluidification des parcours de soins entre le premier, le second recours et les établissements. Voilà, tout ce qui va permettre de faire en sorte que notre travail soit plus fluide, plus simple, plus rapide, ben ça va améliorer notre confort de travail. Évidemment, une sécurisation de la prise en charge des patients. Ce qu'il faut absolument, ce sur quoi il faut être absolument vigilant, c'est qu'un projet de CPTS, ça doit être un projet qui réponde à nos besoins, aux besoins des professionnels de santé qui l'écrivent. Il n'est pas question de créer des projets de CPTS qui remplissent des cases et qui répondent à des missions qui ne répondraient pas à des besoins. Donc l'idée de la CPTS, c'est bien d'améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, d'améliorer la qualité de la prise en charge des patients en se basant sur des diagnostics, en se basant sur ce qui pose problème au départ aux médecins et aux autres professionnels de santé. C'est-à-dire ce problème que je n'arrive pas à résoudre au quotidien dans mon cabinet, je parle en tant que médecin, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux améliorer ce problème-là et faire que ça soit plus facile pour moi de le résoudre en envisageant cette problématique sur le plan territorial et sur le plan pluriprofessionnel. Voilà. Et l'objectif, évidemment, c'est d'améliorer nos conditions de travail et bien évidemment notre qualité de vie. Voilà. Il y a évidemment aussi un intérêt pour les patients. Le patient pourra être un meilleur acteur de sa santé, pourra gagner en visibilité et en accessibilité sur l'offre de soins. La CPTS pourra permettre de développer des actions de prévention et d'éducation à la santé. Tout le travail sur les parcours vont permettre d'éviter des ruptures sur les parcours de soins et de maintenir de favoriser le maintien au domicile. Au total, on espère évidemment une qualité globale de prise en charge qui serait améliorée pour les patients. Alors, comment ça marche ? les CPTS sont éligibles au contrat ACI. Donc, en fait, l'ACI, c'est l'accord cadre interprofessionnel pour les CPTS qui date d'août 2019. Donc, comme l'a décliné, comme vous l'a décrit Elsa, il y a un ACI pour les maisons de santé et il y a un ACI pour les CPTS. Un ACI, c'est un contrat tripartite qui va être signé entre la CPTS, l'assurance maladie et l'ARS pour se mettre d'accord sur des missions le fait de remplir ces missions vont pouvoir déclencher un financement par assurance maladie. Donc les CPTS doivent répondre à trois missions socles qui sont l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation de parcours pluriprofessionnels autour du patient, le développement d'actions territoriales de prévention. Et il y a une mission socle supplémentaire qui est apparue suite à l'actualité, qui est organiser la réponse à une crise sanitaire. Il y a également des missions optionnelles qui sont la qualité et la pertinence des soins et l'accompagnement des professionnels. Donc une CPTS, un petit peu sur le même modèle que les MSP, va être financée au départ par l'Agence régionale de santé pour permettre sa création. Donc les porteurs de projets vont percevoir une aide au démarrage une fois que le projet a été validé par la commission de l'offre de proximité départementale. Donc une aide au démarrage de 40 000 euros. Elle va percevoir également une aide à l'accompagnement de 20 000 euros qu'elle versera à une structure d'appui labellisée par l'ARS. En région PACA, nous avons trois structures d'accompagnement, donc deux structures privées et une structure qui est l'URPS Médecins Libéraux de la région PACA, qui accompagne la majorité des CPTS de la région et du département des Bouches-du-Rhône. L'URPS est au service des médecins libéraux dans l'accompagnement des projets d'exercice coordonné avec une équipe dédiée, des chargés de mission, du personnel et une expertise désormais reconnue. Une fois que le projet a été validé par la commission pour pouvoir démarrer, l'équipe de la CPTS va pouvoir écrire son projet de santé et ensuite signer le contrat tripartite sur la base de l'ACI avec l'assurance maladie et la caisse d'assurance, l'agence régionale de santé pour pouvoir toucher un budget annuel qui sera pérenne. Donc, comme je le disais en introduction, le financement de la CPTS par l'assurance maladie donc va être un budget pérenne, va être un budget qui va financer la coordination. La CPTS n'a pas vocation à financer des actes, à financer du soin. Donc là, il faut bien avoir en tête, parce que vraiment c'est une question et c'est une crainte de la part des médecins, il n'est pas question d'employer des professionnels de santé par la CPTS. La CPTS va toucher un budget. En signant ce contrat qui est un cahier des charges, la CPTS va remplir des missions et pour chaque mission, elle va toucher un financement et chaque année, elle touchera ce financement qui sera pondéré en fonction de la taille du territoire et en fonction de la population, du nombre d'habitants du territoire. Enfin, il est possible aussi pour une CPTS de toucher d'autres financements pour pouvoir varier les ressources et ne pas dépendre d'un seul financeur. C'est pour ça que les CPTS vont pouvoir répondre à des appels à projets avec des financements régionaux, européens, privés, etc. Alors, je vais revenir un petit peu sur les missions et notamment les missions socle. Donc, la première mission socle, c'est la mission qui fait le plus peur aux médecins. C'est pour ça que je vais la détailler un petit peu. C'est la mission qui permet de faciliter l'accès aux soins. Elle se décline en deux volets. Faciliter l'accès à un médecin traitant et améliorer la prise en charge des soins non programmés. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette mission, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour la CPTS de dire « bon ben voilà, vous êtes adhérent à la CPTS et vous êtes obligé de prendre des nouveaux patients médecins traitants ». C'est pas dans ce sens-là qu'il faut envisager l'organisation de cette mission. La CPTS, ça va être plutôt comment est-ce qu'on peut s'organiser en réfléchissant tous ensemble, en mettant en place une intelligence collective, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour faire en sorte de prioriser les patients qui sont en difficulté pour trouver un médecin traitant et de se dire, finalement, on n'arrive pas à répondre à toute la demande, mais si on priorise sur certains critères des patients qui ont vraiment besoin d'un médecin traitant, comment est-ce qu'on peut faire pour se répartir le travail et mutualiser un petit peu le temps disponible de chaque médecin? L'idée, c'est ça, c'est de se dire, on n'arrive pas chacun individuellement à répondre à toute la demande, donc comment est-ce qu'on peut faire pour s'organiser tous ensemble pour apporter une réponse satisfaisante à une certaine population ciblée qui serait vraiment en difficulté face à la démographie médicale et à l'évolution qu'on connaît de cette démographie. Pour le second volet de cette mission socle, l'amélioration de la prise en charge des soins non programmés, c'est la même chose. Les médecins en ville sont en difficulté vis-à-vis de la demande de soins non programmés. Hein, comme le disait Elsa tout à l'heure, on rappelle que les soins non programmés, c'est des soins qui nécessitent une prise en charge dans les 24 heures, que ça soit de la médecine générale, du premier recours, que ça soit du paramédical ou que ça soit du second recours. L'idée, c'est pas de dire à tous ces professionnels, vous êtes obligés d'accepter tous les soins non programmés. Non, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'échelle d'un territoire pour, d'une part, mutualiser les créneaux de soins non programmés pour pouvoir mieux se les répartir et ne pas être désorganisé de façon individuelle dans son organisation quotidienne au cabinet. Et puis, c'est aussi peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux réguler la demande de soins non programmés. Donc, en fait, c'est en tant que professionnel de santé, médecin individuel dans mon cabinet, je suis en difficulté vis-à-vis de ces demandes de soins non programmés. Je suis en difficulté vis-à-vis de ces demandes d'accès à un médecin traitant. Mais comment est-ce que je peux faire sur un plan, collectif pour mieux répondre à ces demandes et ne plus être en difficulté vis-à-vis de ces problématiques. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de trouver des réponses collectives à des problématiques auxquelles on était confrontés de façon individuelle et tous en difficulté. Donc dans la mission numéro 1, il y a également le développer le recours à la télésanté, mais ça, je laisserai Dominique Thiers-Bautrand nous en parler. La deuxième mission socle, il s'agit de mettre en place des parcours pluriprofessionnels. Donc quand on parle de parcours pluriprofessionnel, on parle de mieux fluidifier le patient pour la prise en charge du patient à un moment donné de sa vie, sur une pathologie donnée, hein. Un parcours, c'est vraiment un parcours ponctuel dans la vie d'un patient. Donc il va falloir identifier sur quel parcours sur le territoire on a des difficultés et réfléchir à construire ce parcours pour mieux coordonner tous les professionnels autour du patient. Ça va consister essentiellement à améliorer le repérage, améliorer le dépistage autour d'une problématique particulière, d'une pathologie, mieux identifier les acteurs, ce qui permettra aux professionnels, aux médecins, notamment aux médecins traitants, de gagner du temps pour mieux orienter le patient et améliorer la communication entre tous les acteurs. Donc ça va être entre la ville et l'hôpital, ça va être entre le médical et le médico-social, ça va être entre le médical et le paramédical, pour fluidifier un petit peu ce parcours. Et encore une fois, les CPTS choisissent les thématiques des parcours sur lesquels elles veulent travailler. C'est pas l'assurance maladie, c'est pas l'ARS qui dit vous travaillez sur telle ou telle thématique. C'est les professionnels qui ont fait un diagnostic sur un territoire, qui ont réfléchi de façon collective aux problématiques, aux pathologies qui leur posaient le plus de problèmes et qui ont décidé de travailler sur tel ou tel parcours. Troisième mission, je vais un petit peu moins développer, il s'agit de développer des actions de prévention à l'échelle du territoire. Donc ça, c'était les trois missions socles, les missions principales. On peut également répondre à des missions optionnelles, que sont l'amélioration de la qualité et l'efficience des prises en charge, qui va essentiellement consister à des groupes d'analyse de pratiques, des formalisations de retour d'expérience sur des thématiques que les professionnels vont eux-mêmes définir. Et l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire, qui là est une mission assez intéressante parce qu'elle est transversale. Il s'agit déjà d'accompagner les professionnels dans leur exercice pour éviter les difficultés, éviter l'épuisement professionnel. mais ça va être aussi travailler avec tous les acteurs du territoire et pas uniquement dans le domaine de la santé pour travailler sur l'attractivité du territoire. C'est-à-dire qu'on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui détermine l'installation de jeunes médecins sur un territoire. Et bien là, on va pouvoir réfléchir à en même temps au lieu de stage et en même temps à ce qui peut être attractif pour des jeunes professionnels, pour des jeunes médecins, pour des jeunes familles et essayer de réfléchir de façon globale et transversale à ces problématiques de démographie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question et je vais laisser la parole au docteur Dominique Thiers-Boutran. En tout cas, j'espère que j'aurais pu vous convaincre que l'idée de la CPTS, ce n'est pas de l'obligation, mais c'est vraiment d'avoir un projet qui est utile et qui est pertinent et qui réponde à des besoins exprimés par nous, en fait, voilà, qui nous servent à quelque chose, en tout cas. Voilà.
Bonsoir, merci à tous d'être présents à cette réunion qui parle de nouvelle organisation de la médecine. Donc, je suis Dominique Thiers-Boutran, je suis gynécologue libérale installée à Aix-en-Provence et attachée au pôle de PMA à l'hôpital d'Aix. Je suis élue ordinale et élue à l'URPS, médecin libéraux aussi, qui a beaucoup travaillé et qui continue de le faire sur l'exercice coordonné. Alors moi, on m'a donné un drôle de challenge, à savoir quelle place pour les spécialistes et puis les outils numériques. Donc, sauf à être prêt à passer encore la nuit dessus, je pense qu'on va donner les grandes idées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les outils numériques. Alors, premièrement, quelle place pour les spécialistes? C'était une question un petit peu curieuse. Elle revient finalement, quand on a du mal à répondre à une dissertation, on essaie de tourner la question dans plusieurs sens. Finalement, est-ce que ça revient à dire de poser la question de savoir si les spécialistes ont une place dans les soins de ville? Bon, la question, elle est assez vite répondue, bien sûr. En revanche, plus intéressant, ce concept de CPTS est assez nouveau. L'intérêt n'en a pas été perçu immédiatement, et toujours pas d'ailleurs. Donc finalement, on va peut-être retourner les choses et poser la question, les CPTS ont-elles un intérêt particulier pour l'exercice des spécialistes, sachant que spécialiste, ça recouvre beaucoup de pratiques, du spécialiste d'organes en ville jusqu'au plateau au PTL et aux établissements de soins. Alors effectivement, le concept des CPTS, les spécialistes s'en sont emparés un peu tard, peut-être aussi parce que la première instruction de la DGOS signifiait simplement qu'ils pouvaient participer aux CPTS. Les faits sont là, très peu sur le territoire national, de médecins spécialisés, je ne parle pas des spécialistes en médecine générale, mais des spécialistes d'organes, sont à l'origine de la création de CPTS. Donc il y a eu effectivement un petit manque d'intérêt, de compréhension ou d'approche, en tout cas dans le concept. Peut-être que l'approche territoriale est mal adaptée, c'est-à-dire qu'autant le premier recours a effectivement la prise en charge d'une population, les médecins spécialistes abordent plutôt la prise en charge par les pathologies, par les parcours, donc la limite territoriale qui est imposée par les CPTS est difficile à faire coïncider avec leur pratique courante. Et les flux de population, d'ailleurs, lorsqu'on les examine sur des cartes, sur la cartographie du système de santé, montre que les flux sont extrêmement différents entre le premier et le deuxième recours. Par ailleurs, les spécialistes ont souvent majoritairement besoin de plateaux techniques lourds et c'est donc autour de ces structures, de ces plateaux techniques qu'ils vont organiser leur exercice. Les spécialités sont très inégalement réparties sur le territoire. De fait, connaissant maintenant les difficultés d'accès aux soins, ou plus exactement aux soignants, des patients, dans la région, nul n'ignore les délais qu'il faut pour avoir un rendez-vous de gynéco, d'ophtalmo. Tout ça nécessite une réorganisation et finalement, la CPTS sera et peut-être l'occasion de la penser. Parce que si on y réfléchit bien, et ce qu'elle nous a présenté Florence, les spécialistes répondent déjà, sans le savoir probablement, ou en voulant l'ignorer, à la plupart des missions de CPTS. Ils pratiquent l'exercice coordonné. L'exercice coordonné nous a été présenté comme une trouvaille. Tous les médecins qui exercent savent qu'on pratique un exercice coordonné. On ne peut pas travailler sans infirmière, sans kiné, sans pharmacien. Donc les spécialistes aussi, à savoir qu'ils répondent aux missions socles, puisque ils opèrent des soins non programmés, même si là encore, on a inventé une sémantique pour un espèce de concept très particulier. Nous, on appelle ça urgence, hein, dans le cabinet, il faut recevoir des urgences, on le sait bien. Le parcours pluripro aussi, ce sont les équipes. Un chirurgien, s'il n'a pas d'infirmière, les orthopédistes, s'ils n'ont pas de kiné à la sortie de leur patient. Enfin, le travail en pluripro est connu et les spécialistes interviennent comme les autres dans la prévention et dans les crises sanitaires. Là, on a une crise, il faut vacciner, il faut faire de la médecine. Si on avait une crise géosismique avec un tremblement de terre, on aurait recours aux orthopédistes. Donc les missions optionnelles, alors ça, c'est elles sont encore plus intégrées à nos pratiques. On va parler des réunions de concertation pluridisciplinaires que dans la plupart des spécialités, nous sommes même obligés de faire, nous sommes tenus de les faire. En dehors des RCP de cancéro, je rappelle que les RCP sont rarement rémunérés. L'évaluation des pratiques se fait également régulièrement au sein des établissements ou des équipes dans lesquelles nous travaillons. Et ne serait-ce que le staff, très présent dans les maternités, dans les services de chirurgie, au cours desquels nous analysons les dossiers, montre bien que la pratique de l'exercice coordonné et pluripro est déjà bien installée. Cette pratique d'exercice coordonné permet aussi, parce que les spécialistes en sont un pivot, de le lien ville-hôpital. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spécialistes qui interviennent aussi bien en libéral que dans les établissements. Et donc c'est une occasion, c'est une porte d'entrée de ce décloisonnement ville-hôpital que les autorités et la population souhaitent. Alors finalement, la CPTS peut donner une visibilité, aide à formaliser tout ça, pour peu qu'on veuille bien rentrer dans le jeu et procéder à cette méthode qui paraît un petit peu technocratique de ces missions socles et des indicateurs et de cette espèce de procédure qui nous est imposée. Dans la réalité, notre exercice ne devrait pas changer ou peut-être s'en trouver amélioré. Donc comment peut-on imaginer la présence d'un spécialiste ? Alors, identique à ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire dans leur cabinet, à recevoir des patients adressés par les confrères médecins généralistes, ça participe aussi finalement à la mission. Ils peuvent aussi se regrouper en équipes de soins spécialisées, équipes soit unidisciplinaires entre chirurgiens, entre néphrologues, entre cardiologues, ou en équipe pluripro, qui permettra alors de définir des parcours thématiques pluripro en coordination, en accord et en concertation avec le premier recours du territoire, qui va manifester un besoin particulier sur sa population, et ce sera donc l'occasion finalement de mettre en œuvre une expertise. Les RCP, l'élaboration de protocoles, on y voit l'occasion d'inviter davantage nos collègues médecins généralistes à ces réunions, qui sont souvent en cercle très fermé, et pourquoi ne pas les ouvrir davantage, y compris aux autres professionnels, aux infirmières, aux kinés, qui vont ensuite prendre les patients dont la stratégie thérapeutique aura été élaborée en RCP, qui vont ensuite les prendre en charge en ville. On peut aussi exercer sur plusieurs CPTS, bien évidemment. Une maternité, si elle est sur une seule CPTS, ne va pas drainer que la population de la région. Une équipe de neurochirurgie va avoir un recrutement extrêmement large. Donc le fait d'adhérer à une CPTS ne signifie pas que le médecin concerné va devoir faire ceci ou cela et surtout va devoir limiter sa patientèle. C'est simplement... Les exercices ne changent pas, c'est le point de vue, le prisme par lequel on va aborder les relations avec les patients, les collectivités et le reste des autres acteurs de santé qui changent. Finalement, le mot-clé, ça reste la coordination, la concertation et la communication entre les professionnels. Donc, qui parle communication, on en arrive aux outils. Alors là, comme je vous le disais, je vois mal comment en quelques minutes je peux parler de tous les outils numériques. Donc on va se limiter à finalement quelles sont leur utilité. Il faut d'abord distinguer deux niveaux. On a besoin de certains outils numériques au niveau de la MSP. Ce sera principalement des logiciels pour partager les informations sur les patients, donc les logiciels métiers. À l'échelle de la CPTS, on va avoir réellement besoin d'un outil de coordination. Alors, qu'est-ce qu'un outil de coordination ? C'est une plateforme, en général, qui permet un partage d'informations très divers sur, par exemple, les plannings que réserveraient certains médecins aux soins non programmés, sur la possibilité de faire prendre en charge par tel ou tel professionnel, kiné, infirmier, un patient qui a une demande spécifique ou rapide ou urgente. Mais aussi de établir les plannings dans les parcours de soins et de créer des nouveaux parcours de soins et qui bien sûr met aussi en commun les outils qui sont nécessaires à tous les professionnels, c'est-à-dire un agenda, donc des agendas en ligne. Alors si vous voulez un agenda en ligne pour son propre cabinet, c'est possible, mais bien sûr, les outils de coordination proposent également des agendas partagés qui permettront d'avoir une visibilité sur les disponibilités des médecins, qui permettront aussi un adressage plus facile de nos confrères généralistes vers les spécialistes. Bref, des outils qui vont faciliter un peu la vie et être mutualisés. Bien sûr, font partie de ces outils les outils de télémédecine qui vont jouer un certain rôle dans les rondes désertifiées, dans les soins non programmés, télé-expertise, téléconsultation. Actuellement, il y a beaucoup de plateformes qui proposent ces modules, un peu tous, qui se mettent tous à disposition. Je pense à, par exemple, Entracte, Globule, Maya, qui sont produits par les industriels et qui comportent toutes ces fonctionnalités qui vont permettre à une CPTS de réaliser ses missions et aux praticiens, finalement, d'avoir accès à toutes les informations disponibles dont ils auront besoin. Les institutionnels, bien sûr, proposent des outils. Actuellement, c'est l'outil e-parcours. Là aussi, il faudrait toute une soirée pour en discuter. Bref, c'est un outil institutionnel qui, lui, va encore plus loin puisqu'il veut coordonner le libéral, les hospitalisations, le médico-social. Il veut tout coordonner, tout chapeauter. C'est un outil qui va se mettre en place petit à petit parce que, dans notre société, les données de santé sont importantes. On a besoin de beaucoup de données pour définir des stratégies, des financements. Et donc, nous n'échapperons pas à ces outils-là. La messagerie sécurisée institutionnelle sera donc c'est Azure Réseau, qui est une espèce de groupe WhatsApp et qui permet des échanges totalement sécurisés entre professionnels. Ils ont également une plateforme de télémédecine qui s'appelle Télémed, qui permet de réaliser des téléexpertises. Donc très rapidement, l'URPS qui travaille depuis longtemps sur les outils coordonnés, nous avons bien sûr mis le pied à l'étrier pour proposer rapidement des outils, parce que la demande du président de la République de mailler l'ensemble du territoire avec des CPTS était très insistante, alors que les outils ont mis du temps à se développer, que les industriels n'ont pas tout de suite saisi. Ils ont produit tout un tas d'outils extraordinaires, mais finalement, lorsqu'on veut faire une politique de système d'information cohérent, il faut quand même prendre le temps, répondre aux besoins des professionnels. Donc nous avons mis en place certains outils, en particulier une plateforme de coordination qui permet de la télé-expertise et des agendas, qui nous ont aidés à gérer les centres de vaccination, et une plateforme de partage d'agendas pour les soins non programmés et l'adressage du premier au deuxième recours. Donc finalement, quel est l'intérêt pour les spécialistes, les CPTS, que peuvent-elles leur apporter ? Ma conception avec la CPTS était une coquille vide et il n'est pas si fréquent que ça que l'exécutif propose de mettre de l'argent sur la table avant d'avoir les résultats de quelque chose. La CPTS est une coquille vide que nous pouvons utiliser à profit pour réorganiser notre travail, répondre aux besoins des patients parce que nous sentons quand même bien la pression dans les cabinets est aussi liée à cette difficulté pour les patients de trouver des rendez-vous rapidement, la tension pour obtenir des examens paracliniques, de l'imagerie, avec tout ça qui se déverse assez souvent sur les urgences, créant les tensions et les conflits que nous connaissons bien. Donc évidemment, les CPTS ont sans doute été pensés au départ avec du premier recours, mais évidemment, un premier recours ne peut pas fonctionner sans deuxième recours. Et il est important que les spécialistes s'organisent également sous forme de parcours, d'équipe, un peu comme ils veulent, mais surtout que ce soit en concertation avec les professionnels du ou des territoires. C'est un moyen qui sera, à mon avis, très efficace pour améliorer le lien ville-hôpital parce que la ville aura à ce moment-là des interlocuteurs bien identifiés, ce qui pose problème actuellement à l'hôpital. Et on a la possibilité d'avoir tous les outils, dont les données, pour améliorer la pertinence des soins et la qualité. Les limites, on les connaît bien, il y aura des limites de moyens humains, financiers, c'est très chronophage. Repenser son exercice quand on est en surbooking au niveau des cabinets, ce n'est pas simple. Mais l'enjeu est quand même de taille et d'importance. D'abord, c'est l'avenir de la médecine et de notre système de santé. Et puis, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir finalement se tourner vers l'avenir au lieu de rester accroché à des modèles qui, manifestement, ne fonctionnent plus très bien. Voilà, donc j'attends de ces CPTS qu'elles valorisent l'expertise médicale de tous, des médecins, des acteurs de tous les autres acteurs de santé et des médecins spécialistes. Je vous remercie.
Merci beaucoup à toutes les trois pour cette remarquable présentation. On a beaucoup de questions qui sont tombées pendant vos interventions réciproques. plusieurs sur les CPTS, d'autres sur les financements et une question peut-être un peu plus généraliste. On va, si vous le voulez bien, commencer par celle-ci. Il y a un médecin qui nous indique exercer, comme beaucoup de confrères généralistes libéraux et isolés, un exercice coordonné de la médecine. Donc je pense que c'est ce que disait, Elsa tout à l'heure. Ça va être un exercice coordonné, non pas au sens d'une CPTS organisée, mais un exercice coordonné naturel, comme le disait le docteur Thierry Bautrand. Et il pose la question suivante avec une problématique transverse qui est liée au glissement et au déplacement et au débordement de prérogatives professionnelles. Je vous la livre telle que je l'ai eue. Avec une tendance à la compétition entre professionnels de catégories différentes et des tentatives de prise de pouvoir de certains professionnels. Et il pose la question en ces termes, une structure et une mission officielle, peut-être plus claire, de chaque pôle, permettrait une meilleure prise en charge des patients. Qu'en pensez-vous ? Qui veut répondre ?
Oui. Alors, je comprends la question parce que c'est très d'actualité actuellement et ça pose beaucoup de questions et d'interrogations aux médecins. Moi, je crois qu'il existe deux dimensions dans les débats hein, qu'on a. Il y a le niveau national où on discute avec les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins. Et puis, il y a l'échelon territorial où vous discutez avec votre pharmacien, votre sage-femme voisine. Et là, tout est différent, en fait. Et en fait, ce qu'on veut valoriser, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cet exercice coordonné qu'on peut lui donner tous les noms qu'on veut. On peut le rendre très techno si on veut. Mais enfin, en gros, on fait de l'exercice coordonné avec les gens avec qui on a envie de travailler et on fait généralement du bien meilleur boulot. Après, les appétits des uns et des autres, ceux qui hurlent au dépeçage de la médecine. Oui, sans doute, si on n'est pas capable de faire des propositions, on est en crise. Si on n'est pas capable de faire des propositions, que d'autres en ont, sans doute, les propositions pertinentes seront-elles prises en compte ? Maintenant, est-ce que le danger est là ? Le plus grand danger serait, à mon sens, de ne pas proposer, de ne pas avoir de proposition. Voilà.
Elsa, très bien. Une question pour vous qui concerne les financements. Vous avez parlé d'argent tout à l'heure et ça a suscité quelques réactions. Notamment, comment sont concrètement alloués ces financements ? Par exemple, les 40 000 euros dont vous avez parlé tout à l'heure, sont-ils utilisés ? Alors, comment sont-ils utilisés ? Par qui au sein de la CPTS ?
Alors, au sein de la CPTS, je vais laisser la parole à Florence. Au sein d'une MSP, il y a une aide qui est versée par l'ARS, une aide au démarrage donc, qui est de 20 000 euros pour la MSP et qui sert en fait à financer le projet de santé, la mise en place, le travail, tout ce qu'il y a autour. Et également une aide qui est versée aux prestataires d'accompagnement qui est de 15 000 euros. Ça, c'est l'aide de départ. Ensuite, c'est les ACI, c'est en fonction en fait, des trois axes dont je parlais, accès aux soins, coordination et le logiciel. Et puis après, c'est tout le travail qu'on met en place. Je te laisse répondre pour la...
Une question transverse sur les MSP et CPTS, j'en profite. Est-ce que les MSP et CPTF peuvent avoir des indicateurs communs et les valider dans le cadre de négociations ACI après ?
Ça, je pense pas, mais je vais peut-être te laisser la parole, Florence, là-dessus, parce que c'est assez indépendant quand même. La création d'une MSP et la création d'une CPTS, c'est indépendant. Donc, je pense pas qu'au départ, les aides soient transverses. Par contre, nous, par exemple, notre MSP, elle a un an. Donc, on est vraiment des bébés. Bon, en même temps, les projets d'exercice coordonné, c'est pas très vieux. Hein. Mais à partir de l'année prochaine, on va travailler à partir du mois de janvier avec la CPTS du 11-12-13, qui correspond à notre territoire, puisque nous, on est implanté en tant qu'MSP dans le 12e. Et on aura très certainement peut-être des financements transverses parce qu'on va travailler ensemble.
Pour la première question... Si la question c'était l'utilisation des fonds de façon un peu plus pragmatique, globalement l'aide au démarrage, elle va servir à mobiliser les professionnels de santé pour l'écriture du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire financer des réunions, ça veut dire organiser des réunions, faire en sorte que les gens se rencontrent, qu'ils puissent avoir un cadre sympa pour discuter entre eux, les indemniser éventuellement au temps passé, c'est possible aussi, hein. L'idée, c'est pas de faire en sorte que les professionnels de santé organisent le soin de ville en faisant du bénévolat, parce que c'est quand même des gros travail, des projets ambitieux, ça prend du temps. Les gens, les professionnels de santé qui vont s'investir dans l'écriture de ces projets de santé vont y passer du temps. Donc oui, il y a une partie de l'aide au démarrage, une partie des financements pérennes qui pourront être reversés aux professionnels de santé au titre de l'indemnisation du temps passé. Mais la majeure partie de la subvention de démarrage, elle est quand même utilisée pour le salaire d'une fonction de coordination, en fait, hein, que ça soit au sein d'une MSP ou que ça soit au sein d'une CPTS. On a vu émerger de nouveaux métiers. Alors parfois au sein d'une MSP, ça peut être porté par un professionnel de santé, mais de plus en plus on voit ce qu'on appelle cette fonction est externalisée, c'est-à-dire on fait appel à un professionnel qui s'est spécialisé dans la coordination. Souvent ce sont des professionnels de santé au départ qui se reconvertissent en coordonnateur de maison de santé ou en coordonnateur de CPTS. Ce sont vraiment des nouveaux métiers, en fait, hein. Et pour les CPTS, en tout cas, la majeure partie de la subvention de démarrage permet de couvrir un salaire de coordination qui est souvent pas du plein temps, hein, sur plusieurs mois, parce que le montant ne le permet pas, mais qui permet de rémunérer un poste de coordination sur 0,2, 0,4 équivalent temps plein sur plusieurs mois pour pouvoir permettre l'écriture du projet de santé. Concernant la question sur les indicateurs communs, non, il n'y aura pas d'indicateurs communs à une MSP, à une CPTS, déjà parce que les missions ne sont pas les mêmes, donc on ne va pas pouvoir avoir des indicateurs communs sur des missions qui vont avoir des objectifs différents. Par contre, la CPTS va s'appuyer sur les maisons de santé de son territoire pour pouvoir identifier les besoins, écrire le projet de santé, mais aussi pour pouvoir mettre en place les actions et recueillir les indicateurs. Donc dans ce sens-là, les maisons de santé vont participer, au même titre que tous les acteurs du territoire, au recueil des indicateurs pour la CPTS. Et c'est vraiment très important de considérer ces deux niveaux-là qui peuvent s'intriquer, c'est-à-dire que les maisons de santé sont des acteurs à part entière et participent à la mise en place du projet de la CPTS.
À travers certaines questions, il y en a qui transparaissent sur l'objectif visé dont parlait Elsa tout à l'heure sur l'outil qui sert à ne pas aller faire un burn-out. Il y en a qui craignent quand même qu'il y ait un gros décalage entre l'idéal professionnel auquel répond la CPTS et les contraintes administratives. Vous êtes passé dessus tout à l'heure un petit peu. Est-ce que vous pourriez donner quelques éléments de réponse sur cette réelle contrainte administrative et cette lourdeur que représente la CPTS, et à partir de quel moment on sent une sorte d'équilibre se faire? Qui souhaite répondre?
En fait, je pense qu'il faut envisager la CPTS et l'investissement des professionnels de santé ou l'adhésion des professionnels de santé à différents degrés. Il va y avoir une équipe projet, des membres fondateurs du projet, de l'association, qui vont beaucoup s'investir dès le départ et qui vont y passer du temps et qui, oui, eux, vont vivre de l'intérieur cette lourdeur administrative, parce que c'est eux qui vont tout organiser, tout coordonner depuis le début, c'est-à-dire réunir les professionnels, leur expliquer, faire de la pédagogie, expliquer de quoi il s'agit, écrire le projet, faire en sorte que le projet corresponde à la fois aux besoins des professionnels et à la fois à ce qu'on, au cahier des charges qu'on nous demande auquel on nous demande de répondre. Ensuite, il va y avoir les professionnels de santé qui vont s'investir dans le déploiement de ces actions, des actions qui vont être écrites dans le projet de santé, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir participer à des formations, ceux qui vont vouloir participer de façon un petit peu plus pratique à la vie de l'association. Donc ça, est-ce qu'on peut parler de lourdeur administrative? Je pense pas. Je pense que chacun doit trouver sa place et chacun va trouver quelque chose qui l'intéresse dans la CPTS. Et puis il y a ceux qui vont suivre ça un petit peu de loin, mais qui vont voir que finalement il y a un outil qui a l'air pas mal là sur les soins non programmés, qui me permet d'avoir plus rapidement un créneau d'urgence avec le gastro-entérologue avec qui d'habitude j'en ai 3 mois de délai. Ah ben c'est pas mal, tiens, finalement pourquoi pas Voilà, donc la lourdeur administrative, elle va concerner uniquement ceux qui vont vraiment être au charbon et qui vont vraiment travailler sur le projet. Mais c'est parce qu'ils l'ont choisi, c'est parce que ça leur plaît. Les autres, à mon avis, s'ils n'ont pas envie de subir une lourdeur, ils ne la subiront pas. Ils vont pouvoir profiter de projets qui vont être innovants, ils vont pouvoir profiter d'outils qui sont là pour leur servir à quelque chose. Si ça leur sert à rien, on ne les obligera pas à les utiliser. L'intérêt, c'est que tout le monde trouve sa place et que tout le monde trouve son intérêt. La lourdeur,
Il ne faut pas oublier aussi que la lourdeur administrative, elle est aussi portée par le coordonnateur qui est un peu là pour ça, pour faire ces démarches-là, c'est-à-dire finalement rédiger ce que nous on écrit quand on soit en réunion de concertation sur les étapes du projet. C'est-à-dire c'est lui qui rédige, c'est lui qui transmet à la caisse primaire d'assurance maladie en nous faisant un retour, en nous disant bah, il manque ça, ça, il faut qu'on soit plus performant là-dessus, ça, il faut qu'on recrute tel et tel patient pour apporter des pièces justificatives. C'est ça la lourdeur administrative. Donc on se décharge un peu sur le coordonnateur finalement. Aussi, il est un peu là pour ça. Nous, on est là pour étayer le projet quand même, de santé, pour dire bon, bah, là, il y a un vrai problème. On a une recrudescence, par exemple, des patients qui se sont remis à fumer pendant le Covid. Comment on fait pour les sevrer? Est-ce qu'on fait une consultation de sevrage tabagique? Est-ce qu'on enchaîne sur des dépistages en spirométrie? Est-ce qu'on fait, voilà, c'est dans le cadre de la BPCO, par exemple, il y a plein de choses à faire. Et après, sur la lourdeur administrative, on se décharge un peu sur le coordonnateur qui est un peu là pour ça aussi. Voilà.
Oui, c'est à ça que servent les financements, notamment de l'ARS.
Ça sert aussi à rémunérer les médecins qui travaillent, hein, aussi. Il ne faut pas l'oublier, hein, parce que ça, c'est important. Hein.
Alors, il y a une question autour de est-ce que la CPTS peut être hébergée au sein d'un cabinet médical, hein, le siège de la CPTS? La réponse est plutôt
je dirais oui, mais...
Il n'y a rien...
C'est l'association qui va être... C'est l'association qui porte la CPTS qui va être un siège, pas la CPTS.
Mais... Non, tout à fait. Les statuts de la CPTS...
Je pense qu'on peut même faire
CPTS,
des réunions au sein de la MSB... je ne sais pas trop comment...
Oui, après, c'est une association,
il faut qu'il y ait quelque chose qui est...
Et après, plus tard, il y aura probablement des locaux, mais a priori, le siège social peut être n'importe où sur le territoire, en effet.
Une question laissée en suspens tout à l'heure par le docteur Dominique Thiers-Bautrand sur le choix d'une plateforme. Quelle plateforme choisir alors que nous sommes en attente de e-parcours en PACA? Démarchage, alors marqué plus, mais je rajouterais peut-être plus, au quotidien des industriels. Comment embarquer sur des outils si nous changeons dans quelques mois?
Et oui, c'est la question éternelle. Et si je ne me suis pas engagée, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir la réponse parfaite et pérenne. Donc, je conseillerais d'être assez prudent sur, un, l'engagement financier que les plateformes demandent, sur les garanties et sur vraiment les besoins exprimés. C'est-à-dire qu'actuellement, effectivement, les industriels ont bien compris, hein, ils proposent des outils clés en main. L'exécutif met en place une certaine régulation dans tous ces outils-là, avec des normes qui sont importantes maintenant. Donc, il faut bien vérifier, bien entendu, qu'il y a ces normes-là. Après, je rappelle aussi que la portabilité des données est une obligation. Donc, quand bien même un outil ne conviendrait plus au bout de quelques années, les données doivent être récupérées. C'est un engagement industriel. Je crois qu'il faut vraiment faut se rappeler que l'outil doit être à la main du médecin et que l'outil ne doit pas former ou avoir de la main lui-même sur l'exercice médical. Donc j'ai cité les plateformes les plus connues qui sont des outils ambition large et champ d'action large, hein, Globule, le Sagère, le médico-social, Sagère, tout un tas de choses. Maintenant, dans une petite CPTS où il y a peu de monde, on peut très bien avoir besoin pratiquement que d'une messagerie sécurisée et un agenda partagé. Hein. Donc j'ai laissé en suspens parce que je pense pas qu'il y ait une réponse uniforme. Nous, notre souhait, c'est choisissez les outils qui vous paraissent le mieux. Point de vigilance, l'engagement financier, c'est-à-dire qu'il faut que la CPTS puisse l'assumer, et puis l'adhésion et l'ergonomie, donc l'usage qui pourra en être fait sur les professionnels. Donc il faut une bonne concertation.
Côté financier et également l'engagement contractuel. Si on commence à vous faire payer avec un engagement de 3 ans renouvelable, ça devient beaucoup plus difficile pour s'en dégager. Même question pour les coordonnateurs de CPTS. Hein. Est-ce qu'il y a un outil qui, à l'heure actuelle, vous paraît sortir un petit peu du lot?
Qu'est-ce qu'on appelle l'outil pour les coordonnateurs? Alors, les coordonnateurs gèrent la plateforme. Si, par exemple, il y a une plateforme qui gère les agendas partagés pour les soins non programmés dans la CPTS, le coordonnateur va effectivement avoir l'accès. Donc oui, on va contourner la question. Il y a des droits administrateurs pour toutes ces plateformes-là qu'on peut donner au coordonnateur ou au président de la CPTS, ou au bureau, enfin je ne sais trop quoi. Et puis après, il y a des droits pour les usagers habituels, pour les praticiens. Je répondrai pas à cette question quelle plateforme proposer. Nous avons une idée assez qui commence à se dessiner de ce que sera l'outil parcours. Il manque un certain nombre d'étapes entre l'usage quotidien, les besoins quotidiens des praticiens et le premier échelon de l'outil parcours. Donc il y a de la place, mais je crois qu'il faut vraiment répondre aux besoins, ça c'est une priorité.
Une question pour Florence. Quand vous avez parlé tout à l'heure de mission 1, hein, le socle mission 1, peut-il trouver une réponse en ces temps de désertification? Et ça rejoint une autre question qui a été posée tout à l'heure, qui parlait de zones blanches limitrophes. Il y a un des médecins qui nous suit, qui a un petit peu peur que l'ARS impose une notion de territorialité au CPTS. Est-ce que vous pensez avoir quelques éléments de réponse à apporter?
Sur la mission 1, évidemment que j'ai commencé mon exposé en disant que c'était la mission qui faisait le plus peur aux médecins. C'est évidemment parce qu'il y a cette tension sur la démographie médicale et sur l'accès aux médecins traitants que l'on connaît, qui est appelé à s'aggraver dans les années qui viennent. C'est tout l'enjeu de cette mission. C'est pas pour rien que on nous a demandé de répondre en priorité à cette mission-là, parce que c'est la problématique face à laquelle tout le monde, pour le moment, face à laquelle personne n'a de réponse pour le moment. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que, au lieu d'y répondre de façon individuelle, on y réponde de façon collective. Donc, par exemple, au lieu de se dire je vais répondre à toutes les demandes de médecins traitants, la CPTS va identifier s'il y a plus de patients âgés, plus de patients dépendants, plus de patients précaires, plus de patients qui ont une pathologie chronique avec une prévalence plus importante sur le territoire, et essayer, en fonction de ces données-là, de trouver des solutions un petit peu plus ciblées et un petit peu plus collectives. Donc, oui, évidemment, la difficulté, elle est liée à la démographie médicale, mais en même temps, s'il n'y a pas de difficulté, il n'y aurait pas eu cette mission-là. Donc, je crois que la réponse était dans la question. L'autre question, c'était quoi?
C'était lié à la question de territorialité. Est-ce que l'ARS va
commencer
à restreindre les
CPTS pour le moment, comme je le disais, on nous a laissé toute latitude dans la définition des territoires et dans le choix des territoires. Il reste des zones blanches. Ça va pas être du jour au lendemain que l'ARS va dire là il y a une zone blanche, on vous rattache à telle zone. Il y a un travail de fond qui est mené par les délégations départementales pour essayer de discuter avec les acteurs de chaque territoire pour qu'ils puissent se rapprocher des projets existants. Les projets existants essayent de se faire connaître auprès des professionnels de ces zones blanches, donc les choses, elles vont se faire petit à petit. Je pense que là où il y a des réticences, c'est parce qu'il y a une méconnaissance des enjeux, une méconnaissance des projets, et je pense que les CPTS, la volonté gouvernementale, c'est qu'il y en ait de partout, donc plutôt que de se dire ça va m'être imposé, je pense qu'on a plutôt tous intérêt à se dire de quoi est-ce qu'il s'agit, quel intérêt je peux y trouver, et surtout de se poser la question à quel territoire est-ce que je voudrais être rattaché, plutôt que d'attendre que l'ARS tombe dessus en disant c'est là que vous devez aller, ça serait dommage quand même. Tu voulais intervenir?
Oui, je rappelle que dans l'instruction initiale de la DGOS en 2016, il était précisé que l'ARS n'interviendrait et n'organiserait qu'en l'absence de proposition du terrain. Donc, encore une fois, il faut être force de proposition, proposer des solutions. Elles seront toujours plus pertinentes que celles qui nous seront imposées dans des bureaux en haut de tour. Donc, le travail est là. Je ne pense pas, compte tenu de la démographie médicale, qu'on s'engage très fermement dans des mesures de coercition. Les retombées risqueraient d'être assez dramatiques. En revanche, peut-être modifier son attitude et proposer. Voilà, on ne peut pas nier qu'il y a des zones blanches, on ne peut donc pas nier qu'il y a des patients qui sont en difficulté. Que pouvons-nous proposer ? Après, on ne peut pas faire de miracle.
Presque dernière question pour Elsa au sujet des MSP. On a un pédiatre qui est spécialisé dans les troubles de l'apprentissage. Elle a monté un petit centre multidisciplinaire, nous dit-elle, avec quelques paramédicaux. Dans quelle mesure cette structure pourrait être reconnue comme centre multidisciplinaire ? Et est-ce que ça ne correspondrait pas à la définition même de la MSP que vous avez faite tout à l'heure ?
Oui, alors il faut qu'il. Alors, ce que je disais dans la définition de la MSP, c'est qu'il faut qu'il y ait deux médecins généralistes et un paramédical. Donc, ça, c'est à minima. Puisque je rappelle que l'accès aux soins patientèle, médecin traitant, c'est l'axe fort, un socle obligatoire. Donc là, elle est pédiatre, hein, oui. C'est ça. Donc, il faudrait qu'elle s'associe pour monter cette MSP avec deux médecins généralistes, mais c'est tout à fait possible. Il faut juste se regrouper, voir avec qui elle travaille autour et donc signer ce projet de santé ensemble. Il ne faut pas oublier qu'il faut faire quand même un projet écrit en expliquant bien l'intérêt pour la patientèle, pour voilà, je ne sais pas dans quel secteur elle est, cette pédiatre. Mais voilà, ça c'est important. Mais elle a déjà un paramédical. Elle a déjà un paramédical.
Oui, oui, oui. Ça ne peut pas tourner autour d'un projet pédiatrique.
Donc voilà, il faut qu'il y ait deux médecins généralistes et un paramédical
de patients,
à minima. Oui. Donc ça peut être même plus de médecins généralistes que deux.
Une équipe de soins spécialisés.
Oui, ça c'est plutôt.
Il faut qu'elle s'oriente plutôt là-dessus. C'est une équipe de soins spécialisés, c'est très bien et ça peut rentrer dans pas mal de parcours.
Parfait. Dernière question pragmatique sur la liste des MSP et CPTS. À quel endroit peut-on trouver la liste des MSP et CPTS ? Est-ce que cet endroit existe ? Est-ce que l'ARS répertorie l'ensemble des MSP et CPTS qui sont présentes à la fois dans le département et la région ? Je vais probablement laisser la parole à Florence Zemmour pour répondre à cette dernière question. On a de toute façon les vidéos qui seront visibles sur le site du CDOM 13 d'ici à peu près une semaine. Et vous avez toujours la possibilité de poser vos questions sur l'adresse mail contact@13.medecin.fr. Je laisse la parole à Florence pour cette dernière question. Merci.
Pour les listes des projets, il y a des cartes qui sont disponibles sur le site de l'ARS PACA avec toutes les notamment. Alors, les listes des MSP, je ne sais pas si c'est très utile d'accéder aux listes des MSP. Bon, parce que par définition, on est intégré dans un projet de MSP sur son secteur, mais enfin sur son quartier. Il existe des cartes, en tout cas des listes, je ne sais pas, mais des cartes en tout cas des MSP existantes et des CPTS existantes sur le site de l'ARS. Nous avons à l'URPS Médecins créé un site d'information sur les CPTS en PACA avec tout un tas d'informations pratiques et tout un tas aussi de témoignages de professionnels qui sont déjà investis dans des CPTS. C'est le site cptspaca.fr. Et sur ce site, il y a des cartes également des CPTS qui sont accompagnées par l'URPS médecin avec des fiches pour chaque CPTS, c'est-à-dire pour chaque CPTS, vous allez pouvoir trouver le territoire qui est défini par la CPTS, qui est couvert par la CPTS, ainsi que les coordonnées des porteurs de projets et des coordonnateurs. Donc comme ça, si vous posez la question de savoir si sur votre territoire il y a une CPTS, vous pourrez trouver facilement les informations sur ce site. Voilà.
Merci pour la qualité de votre travail et la clarté de vos exposés et de vos réponses. Vous avez ouvert une réflexion sur la nécessité d'un exercice adapté aux besoins d'un système de santé en difficulté. J'aimerais qu'on en garde la qualité, et la qualité, vous en avez montré ce soir. Vous reviendrez sûrement dans un an. Bravo.